Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business, l'info éco.
17h, c'est la troisième heure de BFM Bourg qui s'enclenche dans un instant par avant toute l'actualité de cette fin de journée. Marjorie Adelson nous accompagne. Rebonsoir Marjorie.
Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous. Ça avance pour l'EPR de Flamanville. La SN indique qu'elle est en train d'achever son examen avant de le soumettre prochainement à une consultation du public. Une fois l'autorisation obtenue, EDF pourra donc charger le combustible. Pour rappel, hier, Bruno Le Maire s'était invité au COMEX d'EDF pour mettre un coup de pression et s'assurer du respect des délais des futurs EPR. Celui de Flamanville accuse un retard de 12 ans. C'est confirmé, le déficit public dérape à 5,5% du PIB. En 2023, il atteint 154 milliards d'euros selon l'INSEE, contre 4,9 prévus initialement par le gouvernement. Un résultat pointé du doigt par le premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici. Il dénonce un dérapage très rare et important. De son côté, Bruno Le Maire se montre déterminé. Il affirme qu'il n'y aura pas de hausse d'impôts en France et qu'elle passera sous la barre des 3% en 2027. À noter par ailleurs que Gabriel Attal sera aux 20h de TF1 demain pour s'exprimer justement sur le budget. Au chapitre des entreprises, Atos au pied du mur en 2023, le groupe annonce une perte nette de 3,4 milliards d'euros. La société informatique en pleine crise financière est entrée dans une procédure amiable avec ses créanciers. Elle vise désormais un accord global pour restructurer sa dette d'ici le mois de juillet. L'ex-fleuron de la tech indique qu'il dispose de 2,4 milliards d'euros de trésorerie, soit assez pour couvrir les liquidités jusqu'à ce potentiel accord. À 4 mois des JO, le groupe qui assure les services technologiques de l'événement affirme qu'il n'y a aucun souci. On poursuit avec Orange et MassMobile qui fusionnent leur activité en Espagne. L'opérateur français et son homologue ont annoncé la création d'une co-entreprise détenue à 50% par chacun d'eux. Jean-François Falacher, DG d'Orange France, a été nommé président non exécutif de cette co-entreprise. La nouvelle société devrait générer 490 millions d'euros par an dès la quatrième année suivant la clôture de cette opération. Ça va bien pour BYD qui réalise un bénéfice record en 2023. Le fabricant de voitures électriques dégage 3,8 milliards d'euros. C'est plus 80% sur un an. À noter toutefois que le constructeur a connu une fin d'année difficile avec la guerre des prix sur le segment de l'électricité. On termine avec le prix du cacao qui ne finit plus de s'envoler. À New York, il signe un nouveau record historique et dépasse 10 000 dollars la tonne. Il est depuis légèrement redescendu. Les cours ont bénéficié d'un déficit d'offres suite à la récolte décevante en Côte d'Ivoire et au Ghana. Les deux pays représentent 60% de la production mondiale.
Votre rendez-vous avec AG2R La Mondiale. Épargne, retraite, santé, prévoyance. Avec AG2R La Mondiale, prendre la main sur demain.
BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Guillaume Sommerer.
Votre shaker, chaque après-midi, 3 heures durant, on agite tous vos placements pour essayer de faire remonter à la surface les meilleures idées, les meilleures pépites, bref, les opportunités d'investissement. Grâce à nos experts, ils sont mobilisés pour encore quasiment une heure. Au Kersulec d'ailleurs, nous appelle la Tour Euronext, la salle de contrôle du CAC 40. C'est vous, Aude, qui dans pile 30 minutes nous ferez vivre la clôture du CAC 40 et des marchés européens. Comment ça se présente ce soir, Aude ?
On a eu du mal à démarrer, on démarre pas franchement non plus cet après-midi. On est toujours avec notre petite hausse de 0,26% sur le CAC 40. On plafonne à 8172 points. On ne refranchit pas les 8200 points depuis ce début de semaine. Il se passe pas forcément grand-chose sur les indices. Il faut aller d'ailleurs sur le SBF pour voir les plus grosses variations avec, tiens, Ruby plus 12% avec l'entrée, en tout cas le franchissement de seuil des 5% de Vincent Belloré, donc au capital dans ce groupe de distribution de produits pétroliers, et puis Orpea qui perd 7,6% et Atos après ses résultats qui est aussi à la baisse cet après-midi.
On y reviendra tout à l'heure à la clôture. Ce qui est frappant, ce qui est marquant, c'est que l'économie américaine reste dynamique. On a eu le chiffre des commandes de biens durables tout à l'heure, ça réaccélère et ça réaccélère même hors secteur de la défense. Bien sûr, l'industrie de la défense est portée par le contexte géopolitique, mais même en dehors, même hors secteur défense, les commandes de biens durables réaccélèrent plus que prévu, signe de cette dynamique toujours de l'économie américaine. Malgré tout, JP Morgan est pessimiste sur le potentiel des marchés. JP Morgan voit le S&P perdre 20% d'ici la fin de l'année, perdre 1000 points. C'est la prévision de JP Morgan, qui a l'habitude d'ailleurs de faire partie des plus pessimistes quant aux perspectives de marché. On va challenger la prévision de JP Morgan dans un instant avec nos experts du club. Et puis les valeurs, bien sûr, à ne pas rater, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Alors, aux États-Unis, on a une nouvelle valeur cotée aujourd'hui. C'est le groupe de médias de Donald Trump, tout nouveau groupe de médias coté, donc depuis aujourd'hui, à quelques mois de la présidentielle américaine. Ce titre, cette valeur, elle s'appelle Trump Media and Technology Stock. Voilà. Et ce titre, pour la première journée de cotation en bourse à Wall Street, gagne 35%. Waouh, sacré succès pour cette première journée de cotation donc. Alors le flottant est assez faible, on va rester donc très mesuré, ça s'annonce assez volatile pour ce groupe. Enfin quand même, introduction aujourd'hui réussie pour le groupe de médias de Donald Trump qui capitalise plus de 15 milliards de dollars, ce qui, s'il faisait partie du S&P, ben voilà, le placerait devant 80 entreprises du S&P en capitalisation par exemple. Ce groupe de médias de Donald Trump pèse déjà plus qu'American Airlines. Et cette hausse de quasiment 35% permet d'ailleurs à Donald Trump d'intégrer aujourd'hui, pour la première fois, le club des 500 plus grandes fortunes mondiales. Voilà, voilà l'ambiance sur les marchés, voilà les enjeux du jour, et donc Trump Media and Technology à ne pas rater sur le marché américain. Aussi Apple, parce que les ventes d'Apple en Chine, elles reculent nettement au mois de février, un repli de plus de 30% quand même. Apple ne souffre pas trop, moins 0,5% en ce moment sur le marché américain.
BFM Bourse, le club de la bourse.
On évoquait tout ça d'ailleurs aussi avec John Plassard dans USA Today, c'était à 15h30, le replay est à retrouver sur notre site BFM Bourse, bfmbourse.com. Le club, le potentiel des marchés tel que le voient nos experts, nos clubbeurs, ils remixent, ils mettent en musique les marchés chaque soir à partir de 17h. Louis Defès, bonsoir Louis.
Bonsoir Guillaume.
Bienvenue, directeur des gestions de Gay-Lussac Gestion, et Christian Bitot, professeur de finance à l'ESSEC. Christian Bitot qui nous accompagnait aussi dans la précédente demi-heure. Ça va Christian, toujours là?
Bonsoir, avec
fidèle,
plaisir.
Fidèle à l'appel, au front, sur le pont, avec nous en fil rouge tout au long de l'après-midi. Merci à tous les deux donc de répondre à notre appel. Est-ce qu'on doit s'inquiéter du calme des marchés? On est encore en hausse aujourd'hui à Wall Street, en Europe, tranquille hausse, on vient à nouveau caresser, tutoyer les records avec une volatilité décidément inexistante, extrêmement faible la volatilité, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Cette faible volatilité, alors qu'on est sur des quasi-records, est-ce que ça doit nous inquiéter, nous interpeller? Est-ce que le marché dort debout là, Louis?
C'est vrai que le marché est devenu très très peu volatile déjà depuis 2 ans. Ça rappelle un peu les années 2017. Pourtant, les banquiers centraux ne sont pas au même moment que ces années. C'est vrai qu'on aurait pu penser un peu plus de volatilité. Et c'est pas du tout le cas. Donc, pourtant, en plus, Jérôme Powell a confirmé ce qu'attendait le marché, à savoir une première baisse de taux au mois de juin et peut-être différente. Donc, c'est vrai qu'on a l'impression que la banquiers centraux fait tout ce qu'il faut pour plaire au marché. Donc, pour pas avoir de volatilité. C'est vrai que ça peut faire peur. Aujourd'hui, quand on voit les valorisations remonter à des niveaux et par rapport à des taux qui continuent de progresser aux États-Unis, c'est vrai que la prime de risque revient extrêmement basse. Et c'est vrai que aujourd'hui, il y a une énorme, le marché est très, très, très complaisant. C'est pour ça qu'il y a quasiment pas de volatilité. Je crois que ça fait, je sais pas combien de jours, plus de 200 jours, je crois, où il y a le marché, S&P, a pas fait plus de 2% à la hausse ou à la baisse. Donc donc voilà, pour l'instant, c'est amplifié par les ETF. Bon, voilà, ça, on a fait un très bon premier trimestre. Les records sont faits pour être battus, donc souvent c'est bon signe. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, rien n'est là pour pouvoir arrêter ça. C'est ça ce qui peut faire un peu peur. Souvent, c'est les signes noirs, on le sait toujours après, on les commande toujours après que devant. Mais c'est vrai que là, pour le moment, aujourd'hui, on ne voit pas ce qui pourrait mettre un frein à l'enthousiasme très très fort qu'il y a notamment aux États-Unis, poussé par l'intelligence artificielle, par beaucoup d'autres domaines. Mais c'est vrai que c'est toujours pareil, pour que quelque chose un peu éclate ou qu'il y ait un changement, il faut qu'il y ait un événement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est extrêmement calme. Les banquiers centraux disent ce que le marché veut entendre. Donc c'est vrai que ça peut être inquiétant, mais aujourd'hui, tout monte. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'avant, c'était surtout les méga caps, les 7 magnifiques qui faisaient monter le marché. Mais maintenant, il y a tout le reste de la cote qui commence à arriver. Et donc, en gros, c'est plutôt un marché qui monte plutôt assez sainement. Donc, c'est vrai que pour le moment, il n'y a pas de raison de pas rester investi. Mais néanmoins, en effet, quand tout le monde est content, tout le monde est très complaisant, attention. Oui. Mais après, ça ne sert à rien d'être trop non plus prudent pour rien.
Est-ce qu'il y a un sommeil dans le marché, un sommeil collectif? Vous êtes un spécialiste de la volatilité d'ailleurs, Christian. Donc ça
oui, elle est très
bien.
Basse, mais il y a de très bonnes raisons pour ça. J'écoutais votre journal à 17h. La seule mauvaise nouvelle à l'approche de Pâques, c'est l'envolée des pépites de cacao en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le prix du cacao à l'approche des chocolats de Pâques, parce que tout le reste, il n'y a que des bonnes nouvelles.
La géopolitique, c'est pourri là quand même.
Alors, effectivement, ça c'est la réserve
du risque. Nous,
là, bien sûr, et ça c'est impossible à déterminer, ce sont les événements géopolitiques. Mais si on regarde l'économie, que l'on suit de très très près, tous les jours il y a des petites nouvelles, mais qui sont toutes, je n'ai jamais vu ça, elles vont toutes dans le même sens et le bon sens. Je prends les chiffres d'aujourd'hui, vous l'avez cité, les commandes de biens durables aux États-Unis. Tiens, ça s'améliore un tout petit peu, mais pas trop, parce que trop, on dirait, ça y est, l'inflation revient et JP Morgan aurait raison. Ça serait la hausse des taux d'intérêt, parce que c'est leur principal risque. Eux pensent qu'on est encore dans une boucle d'inflation. Mais là, il y a juste une petite amélioration. Et puis aussi, l'indice Case-Shiller des prix de l'immobilier aux États-Unis. Rappelez-vous, la grande peur en septembre-octobre l'année dernière, c'était un effondrement de l'immobilier américain. Or là, l'indice Case-Shiller qui reprend le prix de l'immobilier dans les 20 plus grandes villes américaines, sur un an glissant, il est en hausse de plus 6,6%. Positif, ça va, c'est très bien, c'est-à-dire l'immobilier ne s'effondre plus. Et puis il y en a plein, vendredi c'était l'IFO allemand, tiens, l'Allemagne dont on a parlé, qui sort d'une récession, était à moins 0,3 au trimestre dernier, l'Allemagne, son indice IFO remonte à 87,9, donc c'est positif. Les PMI composites en Europe, on est à 49,9, on se rapproche du niveau de 50, c'est-à-dire on échappe à la récession, et il est normal que les marchés soient bons lorsque les nouvelles s'inversent et vont plutôt vers le bon, mais pas trop bon. Alors ça c'est parfait pour nous gestionnaires, on a le temps tranquillement de composer les portefeuilles, de rester investi. Et on voit bien, le marché ne baisse pas. C'est-à-dire ceux qui disent, oh ben, j'attends qu'on revienne à 7002 sur le CAC pour réinvestir, ben, j'ai peur que justement soit un facteur de hausse parce qu'ils ne le voient pas. Il y a un moment où ils vont craquer et on aura ensuite l'emballement. Je ne pense pas qu'on soit encore en phase d'emballement à la hausse du marché. Pour ceci, on attend que les banques centrales se décident.
On peut encore dire aujourd'hui que le marché monte dans le scepticisme. C'est Warren Buffett qui a coutume de dire que les marchés durablement haussiers montent dans le scepticisme. Est-ce qu'ils montent encore aujourd'hui dans le scepticisme, les marchés ?
Oui, j'ai l'impression que oui, mais ce qui est positif, ils ne montent pas dans la folie en tout cas. Je ne sens pas auprès des épargnants, des clients que nous suivons, des gens qui se précipitent en folie et qui achètent aveuglément. On parlera, je pense, des niveaux de valorisation. Dans quasiment tous les secteurs, même les méga-caps qui ont tiré les indices, non pas des taux de valorisation dans les valeurs technologiques qu'on avait comme par exemple en 2000 quand c'était la folie des valeurs technologiques. Les price earnings, les multiples ne sont pas excessifs. Voilà, pour les meilleurs, ils sont dans la moyenne et puis il y a 90% de la cote qui est en dessous de sa moyenne historique, où là, les gérants commencent à faire leur métier, leur travail et aller rechercher les autres pépites que le chocolat.
C'est vrai que ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a vu le marché monter notamment que sur le P du PE, donc sur le prix et pas du tout sur les earnings. Et là, comme dit Christian très justement, si on a touché peut-être un peu le point bas et qu'il y a une réaccélération de l'économie, pas trop non plus pour que ça fasse plaisir aux banquiers centraux, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que peut-être on a touché enfin le point bas des bénéfices par action. Ça sera peut-être pour nous le T1, ça dépend aux États-Unis, peut-être le T4. Et s'il y a une réaccélération, comme on pense, qui est très chère chez nous, chez Gay-Lussac, c'est dire, notamment par la consommation, parce que vous avez retrouvé du pouvoir d'achat en réel. Ça fait déjà deux trimestres, quelques plusieurs mois, que le consommateur américain, européen, a récupéré du pouvoir d'achat. Mais en tout cas, en Europe, vous savez très bien que vous n'avez pas consommé tout de suite. Au début, vous l'épargnez. Donc, clairement, il y a des réserves d'épargne très fortes, en tout cas en Europe, pour pouvoir arriver. Aux États-Unis, ça a déjà été fait, ce qui est expliqué à croissance. Et c'est pour ça que la croissance américaine a plutôt été révisée à la hausse. Rappelez-vous, en début d'année, tout le monde pensait qu'on allait être à 0,8 de croissance aux US en 2024. Mm-hmm. Le consensus est remonté à 2. Il y a des gens comme Goldman Sachs qui sont beaucoup plus bull, qui attendent entre 2,8 et 3, notamment drivés par la consommation. Donc voilà, donc c'est que le marché a re-rété fortement donc sur le PE. Je crois qu'on est passé de quasiment plus de 11 à 13 en Europe, 13,5.
Ce qui reste très raisonnable,
13,5. Ce qui reste très raisonnable. Et c'est vrai que...
Aux États-Unis, c'est plus tendu quand même. C'est pour ça peut-être d'ailleurs que JP Morgan voit le S&P reculer de 1000 points, 20%, moins 20% d'ici la fin de l'année.
Alors, aux États-Unis, il y a deux choses. C'est que le S&P se paye à peu près 20, un peu plus de 20 fois l'année en cours, avec 30 fois pour les magnifiques 7. Et si on regarde le S&P Equal Weight, on est plutôt autour de 16 fois. Donc c'est vrai que si on retire un peu les 7 mégacaps, mais bon, qui font partie des indices, on n'est plus qu'à 16 fois. Donc 16 fois, c'est pas non plus catastrophique, c'est à peu près en ligne avec le reste du marché. Et c'est vrai que ce qu'il faudrait savoir, c'est que ça peut continuer de monter parce que ces fameuses mégacaps sont en Europe ou aux États-Unis ont des croissances de bénéfices supérieures au reste des large caps américaines ou européennes. Donc c'est pour ça qu'il y a une décote de valorisation ou une surcote pour les mégacaps qui est complètement justifiée par la croissance de bénéfices, qui est deux fois supérieur au reste du marché.
Mais le fait que les indices actions montent dans une forme de grande sérénité quand même, et que l'or parallèlement monte aussi, l'or, l'once d'or est sur des records de $1,176 encore aujourd'hui, est-ce que ça c'est un signe quand même qu'il y a dans le marché une forme d'inquiétude malgré tout? Enfin, comment est-ce qu'on interprète cette hausse à la fois des actifs à risque et des actifs refuges comme l'or?
Alors, bon, l'or, il faut évoquer à ce moment-là le climat géopolitique qui est effectivement instable, incertain, le Moyen-Orient, l'Ukraine, maintenant des attentats, c'est sûr qu'il y a tout ce qu'il faudrait, et c'est l'élément qu'on peut difficilement prédire, qui justifiera à ce moment-là une forte baisse des marchés. Bon, là, il faut la boule de cristal, on l'a pas, il faut le prendre en compte. Et donc, il y a des gens qui le prennent en compte, qui soit achètent des obligations d'État, les taux sont toujours très bas, soit de l'or, voire même du Bitcoin. Vous êtes un spécialiste.
Oh, oh là là,
loin de
là.
C'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que normalement, le cours de l'or est totalement drivé par les taux réels. Et c'est vrai qu'il y a un peu une déconnexion entre les deux. Donc, en effet, comme dit Christian, c'est soit le risque géopolitique, ou sinon, peut-être d'autres banquiers centraux, à cause des problèmes de devises qui veulent sortir peut-être du dollar, qui se mettent à acheter de l'or comme diversification des bons droits. Donc, c'est vrai qu'il y a plusieurs éléments tactiques. Mais c'est vrai qu'en tout cas, aujourd'hui, le cours de l'or est totalement plus drivé par les taux réels, qui était le cas auparavant.
Allez, on est à 20 minutes maintenant de la clôture, messieurs, vous restez avec nous, on est dans la dernière ligne droite. On accélère vers la clôture, effectivement, vous l'entendez. Et notre CAC 40 s'oriente vers une hausse tout à l'heure à 17h35. Il gagne en ce moment le CAC 0,38%, proche de son record, donc 8182 points en ce moment le CAC. Kering est en tête, pas tous les jours, Kering gagne 3%. On a le secteur bancaire aussi qui porte le CAC, hein. Secteur bancaire très très bien orienté aujourd'hui, BNP Paribas gagne 2,6%. Les replis, Stellantis recule d'un peu plus d'1,9%, puis Carrefour qui a racheté un certain nombre de ses actions avec une petite décote. Carrefour dans un cadre global de remaniement de son capital. Ce titre Carrefour recule du coup, s'ajustant légèrement à la décote à partir de laquelle ils rachètent leurs actions. Ce titre Carrefour recule en ce moment de 0,7%. Il perdait quasiment 2,5% ce titre Carrefour. Donc on est en train de limiter les dégâts sur Carrefour à mesure qu'on approche de la clôture. Dans une séance donc qui se passe bien en Europe et aux États-Unis, Wall Street aussi progresse, plus 0,2. Sur le S&P 500 ce soir, Louis De Felt nous accompagne, Christian Bitot également. Et cette question qu'on voudrait quand même vous soumettre, messieurs. Les small et mid-cap restent très en retard. On a encore une OPA aujourd'hui sur une valeur, une petite valeur, Micropole, une OPA avec une belle prime. Et on interroge nos auditeurs et téléspectateurs du coup. Est-ce que l'avenir des small et mid-cap aujourd'hui, c'est la question qu'on vous pose vous tous sur nos réseaux sociaux, notre fil XBFM Bourse notamment. Est-ce que leur avenir est en bourse ou plutôt dans le private equity? Vous êtes nombreux à répondre, à réagir, à nous laisser votre opinion, vos arguments en commentaire. Et pour vous, à 46%, c'est quand même en bourse, que se situe l'avenir des petites et moyennes entreprises plus qu'en private equity. Alors Louis, vous êtes investisseur en bourse, vous n'allez pas dire le contraire, mais quand même, on est déçu par la performance des petites et moyennes valeurs. Est-ce que vous êtes aussi certain qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 ans que leur avenir est en bourse? Est-ce que vous êtes aussi certain que ça, qu'il y a 1, 2, 3 ou 4 ans?
Oui, clairement, c'est vrai qu'on oppose très souvent le private equity et le marché action. C'est vrai que nous, chez Gay-Lussac Gestion, on est spécialistes dans les small cap donc cotés. Donc c'est vrai que souvent, on nous oppose. Mais le problème, c'est que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'argent qui sont sortis des small cap cotés, notamment le problème avec MiFID 2, il y a eu de moins en moins d'analystes qui commençaient à suivre les valeurs et qui sont allés vers le private equity. Et donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de valeurs qui sont aujourd'hui venues à des niveaux de valuation beaucoup, beaucoup plus faibles que dans le private equity. Quand vous regardez les indices Argos, par exemple, on est entre 9 et 10 fois les multiples de valorisation de private equity. Aujourd'hui, on est quasiment 6 fois aujourd'hui dans les valeurs small cap des petites capitalisations françaises. Donc il y a une énorme décote qui n'a jamais eu lieu.
Énorme. Et qui dure.
Et qui dure. C'est vrai qu'il y a peut-être le travail des IPO qui n'ont pas été très, très bien faites. Donc les introductions en bourse. Que le problème, c'est qu'aujourd'hui, elles sont introduites beaucoup trop chères. On se dit, si elles sont introduites en bourse, c'est que le private equity, on n'en a pas voulu. Donc voilà, donc c'est vrai que tout ça, ça donne un peu de méfiance. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une vraie problématique de la paupérisation de la cote française. Et pour la première fois, le président Macron a fait en sorte de redynamiser tout cela. C'est vrai que le président Macron n'avait que pour les licornes, pour le private equity. Et là, pour le moment, il a peut-être prévu un plan de relance de 500 millions d'euros dedans, peut-être des changements sur le PEA-PME. Donc tout ça va dans le bon sens. C'est que le début. Donc espérons, donc normalement j'espère que tout ce secteur va enfin être redynamisé dans les prochaines semaines, mois.
Si les petites et moyennes valeurs ne décollent pas quand les taux des banques centrales baisseront, ce sera peut-être là le signe, on aura peut-être la réponse, ce sera peut-être le signe qu'effectivement leur avenir est beaucoup moins en bourse qu'on ne le pensait.
Si, clairement, parce qu'aujourd'hui on a une décote historique, que ce soit en price to book ou en PE relatif par rapport au large cap. Ouais. Donc ce qui est là, après, il faut remettre dans le contexte que les large cap avant, c'était des grosses valeurs value, c'était Orange, BNP, Total qui étaient les premières capitalisations. Aujourd'hui, vous avez des sociétés qui cartonnent, notamment dans l'intelligence artificielle avec ASML, vous avez tout le luxe qui tire très bien, et ou Novo Nordisk, etc., qui sont les premiers poids des indices, c'est vrai qu'ils tirent ces indices-là. Alors qu'avant, c'était beaucoup plus facile de battre les indices large cap. Aujourd'hui, c'est vraiment très, très difficile. Donc voilà. Donc aujourd'hui, les small caps sont arrivés à des niveaux de valorisation avec, normalement, on devrait avoir atteint le point bas des bénéfices par action et on devrait réaccélérer. Donc aujourd'hui, toutes les étoiles se réalignent. Néanmoins, il faut attendre vraiment et être certain que les banquiers centraux rebaissent les taux. Donc oui. C'est vrai que celle de juin, elle est acquise. Mais la question, c'est après juin, qu'est-ce qui va se passer?
Est-ce oui, mais même si le marché anticipe des baisses de taux, ça ne profite pas aux small limits. C'est-à-dire que même si le marché est conscient qu'il y aura des baisses de taux, pour l'instant, les small limits n'en profitent pas. Est-ce que ce n'est pas mauvais signe sur l'impact que tout le monde espère des baisses de taux pour réveiller les small limits? Est-ce qu'on risque pas d'être déçu?
Non, je pense qu'il faut qu'elles se fassent, ces baisses de taux. Il faut vraiment que, face à son portefeuille, à sa feuille, on se dise, bon, bah, maintenant, un compte à terme ou un monde du trésor, ça ne me rapporte plus que 2%. Et donc, le risque que représentent les small caps, bah, là, ça vaut le coup de l'acheter. Surtout à ce prix-là, cette valorisation-là. Bon, vous l'avez compris, je suis plus favorable à une valeur en bourse, en fait, un comportement en bourse des small caps, c'est l'économie de marché, parce que c'est la liquidité, parce que aussi, c'est le moyen de ne pas masquer la volatilité. Le défaut du private equity, c'est que, bah, comme ça n'est pas coté, ça cache une volatilité qui est potentiellement peut-être existante, mais qu'on ne voit pas. Donc moi, je pense qu'il vaut mieux la règle du marché, en fait, et que ça passe en bourse. Mais je crois que ça se fait par étapes. Vous avez la micro-cap, la création de la société, le private equity et le grand succès, on passe en bourse et on s'intéresse à l'épargne beaucoup plus populaire et plus large.
Oui, effectivement.
Et surtout, ce qui est intéressant sur le marché action, que ce soit des large cap ou des small cap, il ne faut pas oublier que sur long terme, la bourse est le reflet de la croissance des bénéfices par action de chaque valeur. Donc c'est vrai que là, depuis 2 ans, il y a une forte sous-performance, il y a une très forte décote, sachant que les bénéfices par action pour certaines valeurs ont même décru. Donc voilà, aujourd'hui, tout est réaligné pour que ces cours de bourse rattrapent normalement leur croissance de bénéfices par action.
D'ailleurs, qu'on dit que c'est aligné.
Si vous regardez de près le Russell 2000, par exemple, qui est du mid-cap américain, alors il y a encore un énorme retard, mais on commence à voir une inflexion. Légère réflexion.
Oui. Bon, vous y croyez
plus positive.
Vous y croyez encore l'un et l'autre.
On va y arriver.
Et peut-être la revanche à venir, peut-être en deuxième partie d'année, alors des petites et moyennes valeurs. Le CAC 40, en attendant, est toujours en hausse, là, à quelques minutes de la clôture. On appellera dans un instant au Kersulek. On gagne 0,4% sur notre indice CAC 40. Et vous êtes, vous aussi, vous qui nous suivez sur nos réseaux sociaux, une majorité à penser que l'avenir des petites et moyennes sociétés reste en bourse à 44%. Vous êtes 36% à privilégier le private equity. Alors aujourd'hui, messieurs, aujourd'hui, cette année, en 2024, en fait, figurez-vous, un anniversaire. Très bon anniversaire au déficit français qui fête cette année son 50e anniversaire. Les déficits français fêtent cette année leur 50e anniversaire. Ça fait 50 ans, effectivement, que la France est en déficit. Joyeux anniversaire au déficit français. Et on le fête de très belle manière, puisqu'on a une nouvelle aggravation du déficit français sur l'année 2023. Le chiffre a été publié tout à l'heure. Hélas, hélas, on a un déficit qui bondit à 5,5% du PIB, le chiffre publié tout à l'heure. Allez, cadeau empoisonné, là. Comment est-ce qu'on voit les choses? Le marché ne réagit absolument pas. Le 10 ans français n'a pas réagi, il est même en train de se détendre un peu, comme le 10 ans allemand et comme les taux d'Europe du Sud. Pourquoi le marché ne réagit pas? Et vous, à titre personnel, professeur de finance à l'ESSEC que vous êtes, Christian, comment est-ce que vous percevez, vous interprétez cette nouvelle aggravation du déficit français?
Elle n'est pas suffisante. Pourquoi elle n'est pas suffisante? C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas cette manne actuelle qui est un goût pour l'achat d'obligations, un soutien des banques centrales, même si là elles sont en mode pause par rapport à l'achat de dettes? Et donc il est possible, et ça a été le cas pendant le Covid, d'utiliser le déficit. Ce qu'il faut, c'est bien l'orienter. Mais quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, où finalement l'administration...
Qu'est-ce qui n'est pas suffisant? Vous disiez qu'il n'est pas suffisant.
Ben oui, mais il faudrait un déficit plus important, mais peut-être mieux l'utiliser.
Ah, d'accord.
C'est-à-dire de grands programmes d'investissement comme aux États-Unis, qui à la surprise de tout le monde l'année dernière, a réussi une bonne croissance économique grâce à des programmes de dépenses et d'investissements, notamment dans le domaine de la relocalisation de la fabrication de semi-conducteurs. Le programme est énorme, 280 milliards de dollars répartis sur plusieurs années. Biden vient de faire voter son budget pour l'année prochaine. Ça sera encore un déficit largement supérieur à 6%, à mon avis, plus d'éventuels, malheureusement, efforts de guerre potentiels. Et donc, ça leur assure une position numéro un en termes de croissance économique. Alors, regardez plus près de nous. L'Allemagne, ah oui, bravo, ça y est, ils sont repassés à un déficit contrôlé puisqu'ils sont repassés à 2% de déficit budgétaire. Le déclin industriel de l'Allemagne depuis 2 ans est absolument phénoménal. Ils ont failli passer en récession. Et pour cette année, les plus optimistes prévoient 0% de croissance pour l'Allemagne. Bien joué pour le déficit. Donc, la France, avec 5,5, on est dans la bonne moyenne. On devrait être plus agressif, sauf qu'il faut bien utiliser les dépenses. Bien entendu,
c'est là que le bas blesse.
De vrais programmes industriels, d'investissement, c'est peut-être là que le bas baisse. Mais regardez le modèle du Japon, dont on parlait tout à l'heure.
Oui, ils ont un niveau Japon, de déficit sur PIB supérieur à la France.
6,6, une dette supérieure à la France, des taux d'intérêt plus bas que la France, et un rebond économique où les 2% de croissance qu'on aura cette année au Japon sont largement supérieurs à nos, pour nous, 0,6, 0,8, entre la BCE, les prévisions européennes, pas encore génial.
Ouais, le problème, c'est le profil, effectivement, de ces déficits, plus que le niveau de 5,5 n'a en fait pas grand-chose d'exceptionnel au sein des pays de l'OCDE. On n'est pas un bon élève, mais on n'est pas non plus parmi les pires élèves. Et on a des puissances économiques davantage en dynamique que nous, qui ont des déficits aussi plus élevés que nous. Oui, parce qu'ils ont une croissance plus élevée, ils peuvent aussi se permettre ce déficit.
Ouais, mais oui. Surtout, il faut rappeler que ça a été creusé, notamment post-Covid. Et pendant ce temps-là, les taux réels étaient négatifs. Et je rappelle que quand on a des taux réels négatifs, c'est une chance inouïe de s'endetter et d'investir dans la transition énergétique, etc. Donc au contraire, c'était plutôt bien vu pour une fois que les taux réels étaient négatifs, parce que plus vous endettez, limite, plus vous enrichissiez. Donc voilà, c'est que maintenant le problème, c'est un peu le contre-coup des années Covid. Mais c'est vrai que par rapport aux États-Unis qui creusent son déficit, c'est ce qui a creusé les différences d'écart de performance entre les US et en Europe l'année dernière, c'est quasiment le creusement des déficits aux États-Unis. Donc c'est ce qui explique la croissance. Donc c'est vrai, comme dit Christian, le problème c'est qu'en tout cas en France, c'est mal utilisé et on ne retrouve pas forcément ce creusement dans la croissance parce que c'est pas très bien ajusté. Quoi.
Oui, parce que les dépenses ici, c'est pour le fonctionnement courant. Quoi. Voilà. Et peut-être un peu moins pour l'investissement que dans d'autres pays. Est-ce que les agences de notation vont dégrader la note de la France le 26 avril, Moody's et Fitch réactualiseront la note de la France. Le 31 mai, ce sera au tour de Standard & Poor's.
Je dirais que c'est pas grave. Probablement une des deux, c'est le petit jeu, ce n'est pas grave. On a toujours la solidarité européenne depuis 2012. On sait que la dette de la France ne dévira pas. D'ailleurs, le spread, l'écart de taux entre la France et l'Allemagne ne bouge pas du tout par rapport à ce pronostic.
Et il est assez faible, cet écart de taux, effectivement. Tiens, Aude nous appelle. On est à quoi 9 minutes maintenant de la clôture des marchés ici en Europe. On va la vivre avec vous, Aude, depuis la Tour Euronext en direct. Ce sera à 17h35. Comment ça se présente ce soir, Aude?
Bon, on ne devrait pas avoir de surprise, on devrait clôturer en hausse, mais vraiment une toute petite hausse. On n'aura pas fait grand-chose aujourd'hui, mais on devrait monter allez, de 0,3-0,4%. C'est ce qu'on a pour le moment à 8185 points. Pas de suspense, on n'ira pas à 8200 points. Il n'y a pas de gros mouvement au sein de l'indice parisien. Je voulais quand même vous parler de Kering, qui avait vraiment vécu une mauvaise semaine dernière hein, avec l'annonce d'une baisse de 20% ses ventes sur Gucci ce trimestre. Eh bien, Kering reprend un peu de terrain aujourd'hui. Ça faisait 5 séances qu'elle était dans le rouge. Elle avait perdu 15% quand même l'action. On reprend 3% cet après-midi. C'est même la plus forte hausse de l'indice parisien.
A tout de suite, Aude, pour la clôture en direct, effectivement. Et puis, si vous avez, vous qui nous suivez, des questions sur vos portefeuilles, n'hésitez pas à nous les envoyer chaque jour dans Culture Bourse. Julie Cohen-Horton et son expert vous répondent. C'est à 15h50 en direct. Vous pouvez nous adresser vos questions en flashant, en scannant le QR code qui apparaît tout au long de l'après-midi sur vos écrans. En plus, il est beau ce QR code, profitez-en. Ou encore par mail à l'adresse bfmbourse@bfmbusiness.fr. Culture Bourse, 15h50 chaque jour sur BFM Business. Il est 17h28, on entre dans la Data Room. C'est le détecteur de mensonges de BFM Bourse. Les data ne mentent pas. Elles révèlent même une part de vérité cachée dans les marchés. Vous allez, cette part de vérité, messieurs, nous la faire voir. Louis et Christian, êtes-vous prêts?
Oui.
Oui.
Vous avez chacun une minute trente pour présenter une data forte qui en dit sur les marchés plus qu'un long discours. Christian, on va démarrer avec vous. Votre chiffre est porteur d'espoir pour les marchés. 20 800 milliards de dollars.
Oui, 20 800 milliards de dollars, c'est la masse monétaire. Au sens M2, c'est-à-dire les liquidités présentes dans l'économie américaine. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir si elle augmente ou si elle baisse, parce que si elle diminue, ça signifie que la Banque centrale américaine, la Federal Reserve, est restrictive. Si elle augmente, elle passe accommodante. Alors, si on regarde les chiffres, au plus haut, quand ça a été la gabegie, la dépense monétaire, l'achat d'obligations pendant le Covid, on était monté à un total de 21 660 milliards de dollars. Et puis, elle n'a pas arrêté de baisser depuis que la Federal Reserve est devenue restrictive. Pour ceci, elle a augmenté ses taux d'intérêt, elle a restreint le crédit, les conditions financières, la base monétaire a baissé. Et elle atteignait en octobre dernier, c'est vraiment pour moi la date clé, d'ailleurs c'est le début de la hausse des marchés, 20 690 milliards de dollars. Alors aujourd'hui, 20 800, c'est pas encore vraiment une hausse, mais quand on regarde cette courbe, ça veut dire que ça s'aplatit. Il semblerait que la Fed, voilà, arrête de restreindre les liquidités. Et la phase d'après, pour que les liquidités augmentent, il faut qu'on ait envie de faire du crédit. Donc il faut que les banques viennent chercher de l'argent à la Federal Reserve. Et pour leur donner envie, c'est la baisse des taux. C'est pour ça que tous les spécialistes la voient pour cet été, pour qu'à nouveau on redemande du crédit, ce qui va recréer de la masse monétaire. Ça se présente bien.
Ça se présente bien, et ça, les marchés l'ont en tête, c'est une des clés. Une des clés de leur solidité et des records récents en bourse. Christian, vous vous êtes livré, Louis, à votre tour. Votre data, plus 0,1%.
Oui, plus 0,1%, c'est le LEI aux États-Unis, c'est le Leading Economic Index. Vous savez, c'est un indicateur avancé de croissance aux États-Unis. Et donc là, ça fait 2 ans, depuis février 2022, que l'indice fait que de baisser. Et normalement, quand cet indice baisse, un indicateur avancé sur une entrée en récession de l'économie américaine. Ah. Et on va vous dire, est-ce que cet indicateur marche encore? Ça a toujours marché dans le passé. Et là, normalement, ça fait 2 ans. Rappelez-vous, ça fait 2 ans qu'on pense qu'on va rentrer en récession, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, et on n'est pas rentré. Donc, est-ce que c'est bon ou pas? Donc, la question, c'est de dire que finalement, on n'est pas rentré en récession parce qu'il y a eu des déficits énormes aux États-Unis, comme on a parlé tout à l'heure, qui a tiré la croissance. Les Américains aussi ont puisé dans leur épargne pour toujours consommer encore plus. Donc voilà, donc là pendant 2 ans il est en baisse et c'est la première fois depuis février 22 qu'il remonte en hausse. Donc ça corrobore un peu ce qu'on disait, c'est un peu les indices PMI qui étaient au plus bas qui commencent à remonter. Donc on passera peut-être de bad news is good news dans les marchés à good news is good news. Donc ça veut dire que si ce LEI se confirme et revient dedans, c'est vrai que pour la première fois il va y avoir une réaccélération de la croissance aux États-Unis. Mais pas de façon artificielle par les publics budgétaires et les épargnes, mais peut-être par la vraie économie. Et c'est pour ça que peut-être que le marché va enfin saluer good news et good news, et donc enfin que le marché va remonter par le relais des bénéfices par action, et plus, comme on disait tout à l'heure, sur le P du PE, donc sur le pricing.
Effectivement, parce que pendant plus d'une dizaine d'années, depuis la crise Lehman, les marchés montaient, mais surtout grâce aux banques centrales, là on est en train de remettre à l'endroit les économies quand même. C'est intéressant ce qui est en train de se passer. Et pour l'instant, ça se fait relativement sans douleur, même si beaucoup de secteurs sont encore en retard par rapport aux plus grosses valeurs de la cote. Mais c'est encourageant, c'est un bain de jouvence, là, beaucoup d'optimisme, c'est 2 chiffres plutôt prometteurs que vous nous proposez l'un et l'autre, c'est la data room chaque jour. On va rester dans le positif, avec une valeur qui aujourd'hui se distingue. Ce titre gagne plus de 12% à quelques instants de la clôture. 12% de hausse, le titre Ruby, Vincent Bolloré. Louis, vous avez travaillé le dossier aujourd'hui. Vincent Bolloré franchit la barre des 5% du capital. Est-ce que ça mérite une telle hausse de 12,5%?
Ouais, je pense que oui. Est-ce que Ruby, il faut savoir, c'était vraiment la valeur star des années, fin des années 99. Vous savez, quand c'était hors film, la société Picciotto qui était rentrée dedans, ils avaient vraiment fait un énorme carton. Et c'est vrai que depuis 5-6 ans, la société est complètement tombée en désuétude. Et là, la famille Bolloré, à travers la plantation de terres rouges, vient de prendre 5% du capital. Et comme par hasard, ça arrive quelques jours après la décision de Ruby de vendre leur stratégie, vous savez, ce qu'on appelle la partie Ruby Terminal, à un fonds américain qui s'appelle Square Capital. Donc on peut penser que Vincent Bolloré, qui connaît très bien ce secteur-là, donc il rêverait peut-être de le récupérer dans Bolloré Énergie, parce que maintenant qu'il a cédé toute la partie logistique, maintenant il a plein de cash, donc c'est de nouveau un nouveau raid qu'il pourrait refaire. Et le problème de Ruby, pendant très très longtemps, c'était un peu, ça nous rappelle un autre dossier français qui est Lagardère, c'est que le problème, commandite. C'est que c'est une commandite. Et aujourd'hui, il faut savoir que les deux fondateurs, Gilles Bodin et Jacques Rioux, ont plus que 2% du capital et ils détiennent donc tout le on va dire quoi, toute la gestion de la société qui est que 2%. Et on peut penser que Vincent Bolloré devrait faire un raid, peut-être qu'il va faire voler en éclats cette commandite comme il l'avait fait chez Lagardère.
Sauf que Ruby va beaucoup mieux que Lagardère quand même.
Ruby va quand même un peu mieux, sachant que les niveaux de valorisation sont revenus au plus faible. On est à peine une fois les fonds propres. Et ce qui est assez intéressant, c'est que tout le monde s'est focalisé sur la famille Bolloré, mais au même moment, un autre acteur important maritime a déclaré aussi une hausse de 5% au même moment. La famille Molis, vous savez, ceux qui étaient dans la CNIM, donc dans tout ce qui est maritime. Comme par hasard, moi je pense que les deux, on verra plus tard, vont certainement agir de concert. Donc c'est vrai que l'affaire est importante et je comprends totalement que l'action monte de 12%. Il y a le broker indépendant Odo qui est passé à l'achat, notamment sur spéculation, et le titre reste sous-valorisé. Donc je pense que Ruby à suivre de très près.
Vous estimez que Vincent Bolloré ne va pas s'arrêter là dans Ruby et autour de Ruby. C'est un peu l'idée et peut-être le pari des marchés aujourd'hui. Plus 12,5% Ruby, 31,62€ à quelques instants de la clôture. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. La Data Room, chaque soir, juste avant la clôture. Louis Defez pour Gay-Lussac Gestion. Christian Bitot, professeur de finance à l'ESSEC. Et qui nous a accompagnés aussi sur le Bullshitomètre. Vous croyez dans le potentiel du marché japonais. Hein. C'est ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Malgré la natalité qui baisse, la démographie déclinante, au point que l'un des principaux fabricants de couches au Japon renonce à fabriquer des couches pour bébés. Il se concentrera désormais sur les couches pour adultes. On en est là au Japon.
Vous en remettez une couche.
Oui. Mais vous estimez que le marché japonais reste quand même fécond, lui, et qu'il n'est pas trop tard pour y investir. Bullshitomètre à retrouver lui aussi en replay sur notre site. Merci beaucoup messieurs, dans un instant la clôture en direct. A tout de suite sur BFM Business.
BFM Business, BFM Bourse. la clôture à Euronext.
Aude Kersulek nous accompagne effectivement depuis la salle de contrôle du CAC. Rebonsoir. Aude, deuxième clôture de la semaine. Comment termine-t-on ce soir à Paris?
Cette fois-ci, c'est en hausse, hein, après un score à l'étal hier, plus 0,4%. Aujourd'hui, 8184 points. On n'aura pas fait grand-chose dans cette fin de séance, mais on termine quand même sur les plus hauts de la journée. Alors, il faut dire que on a fait un petit peu mieux du côté de l'Allemagne, par exemple, avec le DAX 40 qui, lui, a continué de franchir ses records, comme c'était le cas hier. De nouveaux records en séance à 18411 points, nouveau record en clôture pour donc ce DAX 40 qui progresse de 0,8% et qui clôture à 18384 points. Ça se passe bien aussi du côté de Wall Street, puisque là, les trois indices progressent de 0,2-0,3%. Donc, en fait, tous les indices sont dans le vert, mais on voit quand même qu'on manque d'enthousiasme, de catalyseur. Alors, la preuve en est, parce que la plus forte hausse du CAC 40, c'est Kering. On voit des acheteurs qui reviennent par opportunité, hein, sur ce titre qui avait perdu beaucoup la semaine dernière, moins 15%. Et bien là, on prend 3,1% aujourd'hui à 364 euros devant BNP Paribas qui a fait les frais d'un relevé de recommandations, hein, de la part d'un analyste. On monte de quasiment 3%. S'en suit des valeurs industrielles, Renault, Vinci. On voit que les autres valeurs du luxe sont en revanche à la baisse, hein, Hermès ou LVMH qui perdent 0,5%. La plus forte baisse, c'est Stellantis sur le CAC 40 qui perd 2%. Et puis sur le SBF 120, on a quand même des valeurs qui se sont un petit peu plus activées aujourd'hui, notamment avec l'arrivée d'un nouvel actionnaire chez Ruby, Vincent Bolloré, qui a donc franchi le seuil des 5% du capital. Eh bien, ça a créé quand même un petit effet, hein, plus 12,5% pour Ruby à 31,60 €, loin devant la deuxième plus forte hausse qui est Eutelsat et qui prend 4,2%. D'autres valeurs ont perd 7% sur Orpea. Atos, après sa publication de pertes nettes, hein, ce matin, oui, plus de 3,5 milliards d'euros de pertes. On perd maintenant, on est à moins 0,4% pour Atos, qui avait quand même fait un petit peu qui avait fait beaucoup moins, bien, dans la journée. Voilà donc pour le CAC 40, on est à 8184 points ce soir et on monte un petit peu de 0,4%.
Jean-Louis Cussac avec nous depuis Perceval Finance, son cockpit. Bonsoir Jean-Louis, cette clôture, quels signaux envoie-t-elle pour la suite sur le CAC 40, Jean-Louis?
Ouais, pas grand-chose. Pas grand-chose, Guillaume, parce que on voit qu'il y a beaucoup de régularité tout de même, globalement. Je regardais le marché allemand, c'est vraiment comme s'il y avait des flux d'ETF, et pourtant, sur la semaine dernière, sur les États-Unis, les flux étaient sortants. Il y a eu une déconnecte assez importante dans le monde entier. Mais les effets ne sont pas forcément immédiats. Là, pour l'instant, c'est vrai que le DAX est hyper impressionnant. Mais la performance du DAX 40, hein, la performance glissante sur un an, elle est vraiment identique à celle du CAC 40 quand on enlève les dividendes du DAX ou si on les rajoute au CAC. Vous voyez, il y a vraiment très, très peu d'écart. C'est quasi identique. Donc, c'est un rattrapage aussi. Globalement, on est à 3,1 milliards là ce soir, c'est quand même pas énorme, avec des mouvements importants sur LVMH où elle est un peu à la peine, ou BNP, ou les bancaires. BNP d'ailleurs, c'est le deuxième volume de la séance qui est toujours ramassé. S'il y a un warning, je vais vous le dire dans 5 minutes, mais je vais encore y réfléchir 30 secondes, mais on va voir. Mais il y a peut-être un petit warning que je pourrais signaler dans quelques minutes, et je vais quand même attendre un tout petit peu.
Oui, on vous retrouvera justement, vous nous accompagnez, hein, bien sûr Jean-Louis, pour refaire la séance avec aussi Alexis Albert qui nous rejoint. C'est parti, on va aussi répondre dans les 10-12 prochaines minutes aux questions que vous nous laissez, que vous nous envoyez chaque matin sur nos réseaux sociaux, notamment notre fil X BFM Bourse. C'est parti.
BFM Bourse, on refait la séance.
Séance de hausse, donc plus 0,4% ce soir sur le CAC 40. Alexis Albert pour DNCA nous rejoint. Bonsoir Alexis.
Bonsoir Guillaume.
On est ravis de vous retrouver, effectivement Alexis. On entre dans la saison d'ailleurs de versement des dividendes, là ça approche. Est-ce qu'il y a une valeur dont vous vous dites, tiens, celle-ci, elle va verser un joli dividende, cette entreprise généreuse vis-à-vis de ses actionnaires, et en plus le potentiel boursier reste bien orienté? Est-ce qu'il y en a une comme ça qu'on pourrait mettre en avant?
Il y en a plusieurs, je pense au secteur bancaire, au secteur de l'assurance, au secteur de l'automobile. En tout cas, parmi les très généreux, clairement, l'automobile et les banques se distinguent. Il y en a une qui est extrêmement généreuse depuis 2 ans, c'est Stellantis, mais BNP l'est aussi, un petit peu plus au sud d'UniCredit. Voilà, et ça, c'est, et là, je parle de valeurs qui sont quand même bien gérées, sur lesquelles on n'a pas que le dividende à aller chercher. On a le dividende, on a le rachat d'actions, on en parle de temps en temps, et puis on a les résultats.
Donc on rappelle ces valeurs que vous avez citées, Stellantis,
BNP, ouais. UniCredit. Voilà, trois valeurs sur lesquelles on a, et puis on peut même ajouter AXA. Ce sont quatre valeurs sur lesquelles je pense que les fondamentaux sont solides. Donc ça veut dire qu'on n'a pas uniquement le dividende à aller chercher, et en plus, on a un dividende intéressant, et en plus, pour certaines d'entre elles, on a du rachat d'actions qui vient en soutien.
Bon, Jean-Louis, l'une des valeurs phares du jour, Ruby, a gagné 12,5%. On en a beaucoup parlé déjà dans l'émission, parce que Vincent Bolloré monte à plus de 5% du capital. Mais Ruby, pour vous, c'est aussi une valeur de rendement intéressante. Il faut aussi, enfin pourquoi pas, s'intéresser à Ruby pour son dividende.
Ben très clairement, hein, le rendement est autour de 7%, donc bien évidemment, c'est une valeur moi que j'avais sélectionnée depuis longtemps, c'est celle que j'ai le plus dans mon compte propre. J'en ai mis à mes petits-enfants, voyez-vous, dans leur compte que je leur ai ouvert. J'ai vraiment mis du Ruby en me disant, voilà, ça fera un beau dividende. Les parents paieront les impôts sur les dividendes et les enfants vont capitaliser comme ça. Mais justement, sur Ruby, il y a quelque chose qui me choque, en fait. Parce que c'est une valeur que si je l'ai identifiée, il n'y a pas que moi évidemment, hein, moi je regarde des comptes rendus d'analystes, tout un tas de choses, j'essaie de lire un maximum sur le plan fondamental, quand c'est corroboré par le technique, c'est toujours intéressant. Je trouve quand même que s'il y avait un warning à signaler, ça serait ce côté, parce que j'ai entendu on monte sereinement, oui c'est vrai, les marchés montent sereinement. Mais ce côté effet moutonnier me choque énormément. Et en tout cas, je vais le noter dans une colonne négative où je me dis que peut-être qu'on est aussi à un moment donné où ils savent plus trop quoi faire et qu'ils se disent, allez, Ruby, pourquoi pas, Bolloré rentre dedans. Donc, ça va nous amener un futur parachute peut-être pour la suite. Donc ça, c'est quelque chose qui m'interpelle, cet effet moutonnier que je trouve assez violent, notamment sur la valeur Ruby.
Voilà, c'est dit. On a pas mal de questions d'auditeurs et téléspectateurs, d'ailleurs sur les réseaux, autour de Ruby, Joseph, X95 aussi, qui nous ont écrit. On vous propose, parce qu'on a déjà beaucoup parlé de Ruby, de réécouter le club il y a quelques minutes. On en parlait aussi de ce titre avec Louis Defel, qui voit, lui, Vincent Bolloré, continuer d'agir et peut-être continuer de monter dans l'avenir au capital. Pourquoi pas essayer de faire sauter la commandite aussi, bon, même si c'est pas forcément facile. On vous propose donc de retrouver le replay. Mais Ruby, c'est aussi l'Afrique. Et on a cette question aussi d'un auditeur qui s'appelle Mathias. Comment jouer le réveil de l'Afrique en bourse? Voilà, on voit que cette opération de Vincent Bolloré, elle éveille la curiosité des auditeurs et téléspectateurs. L'Afrique en bourse, Alexis, est-ce que ça vous parle?
Oui, bien sûr. Ça fait, je pense que l'Afrique en bourse, on essaie régulièrement de se positionner sur l'Afrique d'une manière générale. C'est un pays qui est compliqué. On va dire, si on prend un petit peu les pays qu'on a joués ces dernières années, il y a eu la Chine il y a une dizaine d'années, et puis encore aujourd'hui, hein, mais puis l'Inde. Et c'est vrai que l'Afrique, régulièrement, on s'interroge sur quels sont les meilleurs vecteurs pour jouer ce pays. Il y a plusieurs solutions. La consommation reste le premier vecteur. Donc quand on dit consommation, on pense à plusieurs choses. Il y a un petit peu la consommation de base, j'ai envie de dire. Là, moi, je pense naturellement à des sociétés de boissons, des sociétés de spiritueux, notamment les bières. Je pense à Heineken. Sinon, il y a un groupe aussi, je vais être un petit peu redondant avec ce que j'ai dit il y a deux minutes quand je parlais des dividendes, mais il y a aussi Stellantis. Aujourd'hui, l'Afrique et le Moyen-Orient, c'est, quand on regarde le résultat opérationnel de Stellantis, c'est quasiment 10%. Donc, c'est pas négligeable. Heineken, c'est quasiment 15%. Donc voilà, ça c'est des groupes sur lesquels on va réussir à se positionner, juste pour donner des ordres de grandeur, ce qui n'enlève en rien aux qualités de Renault, hein. Mais le résultat opérationnel de Stellantis en Afrique, c'est quasiment l'intégralité du résultat opérationnel de Renault, donc ça devient une zone significative, hein.
Effectivement, on vous rappelle la clôture ce soir, le CAC 40 a gagné 0,4%, Wall Street aussi progresse. Un titre à surveiller à Wall Street aujourd'hui, c'est le groupe de médias de Donald Trump qui s'introduit en bourse. Le stock s'appelle Trump Media and Technology Stock. Première journée de cotation à quelques jours de la présidence, à quelques semaines, mois même, de la présidentielle américaine. Le titre gagne pour sa première journée de cotation 43%. Plus 43% pour la société de médias de Donald Trump. Cette hausse permet à Donald Trump d'intégrer aujourd'hui le club des 500 plus grandes fortunes mondiales. Voilà, à quelques mois donc de la présidentielle américaine, on sait qu'il cherche de l'argent par ailleurs Donald Trump pour ses ennuis et soucis judiciaires. Puis cette valeur, elle capitalise plus de 15 milliards de dollars. C'est-à-dire que ce groupe de médias de Donald Trump pèse déjà plus lourd en bourse qu'American Airlines. Voilà ce dont on voulait aussi vous faire part. Et ce titre en direct, là, sous nos yeux à Wall Street, qui est en train d'impressionner tout le monde. Alors attention, le flottant est assez réduit, donc on va peut-être vers des séances quand même assez volatiles autour de ce titre Trump Media Technology Stock. Bon, Wall Street est en hausse en tout cas. Autre question d'auditeur, il s'appelle Clément, il nous a aussi écrit sur notre fil XBFM Bourse à propos de Michelin. Clément nous demande si le nouveau projet de pneus sans air de Michelin pourrait révolutionner le marché du pneu et porter le titre Michelin beaucoup plus haut. Est-ce qu'on peut lui apporter une réponse à cet auditeur ? Alexis ?
En tout cas, la réponse qu'on peut lui apporter, c'est que, notamment quand il s'agit de Michelin, mais pas uniquement, la technologie, l'innovation est toujours un vecteur de performance opérationnelle. Ce pneu sans air, enfin en tout cas, ça fait longtemps que Michelin travaille sur des alternatives, effectivement, au pneu tel qu'on le connaît. D'une certaine façon, on s'en rend pas compte, mais le pneu tel qu'on le connaît au cours des 30 dernières années, il a déjà beaucoup évolué. Michelin a eu beaucoup de succès, il a toujours beaucoup de succès ces dernières années grâce à une technologie 4 saisons qui s'appelle le Cross Climate. Donc il est évident, et je rappelle aussi que Michelin est leader sur les véhicules électriques en termes d'équipement de pneus. Donc l'histoire de Michelin, elle est faite d'innovation technologique. Que ce soit un pneu sans air ou un pneu avec moins d'air ou un pneu avec des renforcements, en tout cas, l'innovation de Michelin sera toujours au cœur de sa performance opérationnelle. Et tant qu'on verra Michelin, on va dire, en leader de brevet, en haut du leaderboard de l'innovation, je dirais qu'on pourra à peu près dormir sur ses deux oreilles sur une société comme celle-ci.
Bon, voilà, et les pneus sans air qui pourraient apporter encore de l'oxygène, même si, pardon, pour le titre en bourse, bon, désolé, c'était juste pour le jeu de mots. Non, c'est purement gratuit, mais voilà, il n'y avait pas besoin de ça pour estimer que Michelin garde du potentiel.
Non, absolument.
Voilà. C'est l'idée, effectivement. Une pépite comme ça, on aime bien proposer à nos auditeurs et téléspectateurs, ouais, une valeur dont vous estimez qu'elle devrait continuer de progresser contre vents et marées. S'il y en avait qu'une, comme ça serait laquelle?
Alors aujourd'hui, moi j'ai envie de vous parler de la défense. Malheureusement, régulièrement au cœur de l'actualité, mais on a en France la chance d'avoir quelques beaux groupes exposés à cette thématique de la défense, et notamment je pense à Thales. Pourquoi Thales ? Parce qu'en fait la partie de la défense est quand même très supérieure à des groupes tels que Safran ou tels que Airbus. On a eu des résultats annuels de très bonne qualité, on a des perspectives 2024, 2025, 2026 qui sont aussi particulièrement solides et encourageantes. Donc on a un parcours depuis le début de l'année qui est exceptionnel. Donc peut-être qu'on aura quelques opportunités plus intéressantes. En tout cas, moi je pense que c'est un titre sur lequel clairement on a un avenir relativement solide, compte tenu, je l'ai dit, du carnet de commandes et des performances opérationnelles et de la rentabilité.
Ils sont sur la cybersécurité aussi, Thales.
Ils sont sur la cybersécurité aussi.
Oui, oui. Enjeu incroyablement important et de plus en plus. Alexis Albert est gérant chez DNCA. Merci, Alexis.
Merci, Guillaume.
Merci de répondre si régulièrement à l'appel de BFM Bourse et de répondre aussi aux questions de nos auditeurs et téléspectateurs qui étaient nombreuses aujourd'hui. Bonne soirée, bon retour. Une belle hausse ce soir pour le CAC 40 qui s'approche à nouveau de ses records. 8185 points en clôture, plus 0,4%. Kering, pour une fois, termine en tête d'ailleurs, plus 3,1%. Dans un instant, Good Evening Business, Guillaume Paul, Audrey Tcherkov et Edwige Chevrillon vous accompagnent jusqu'à 20h. Bonne soirée à tous.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.